When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Salut les fous du volant, ravi de vous retrouver pour le 30e épisode de la saison 2023 et après ce Grand Prix du Qatar, on connaît le nom du champion du monde. Il faut dire qu'il n'y avait pas trop de suspense, mais désormais, Max Verstappen est triple champion du monde de Formule 1. On reviendra sur cette machine à record qui est en route et même plus que jamais. Avant ça, on va aussi revenir sur le déroulement de ce week-end au Qatar, une sorte de laboratoire de tout ce qu'il faut éviter en F1, course sprint qui aboutit au titre le samedi, dépassement de la piste à l'appel, vibreur destructeur qui oblige à limiter le nombre de tours pour chaque relais. On a vraiment vécu le contre-exemple parfait de tout ce qui nous dresse les cheveux sur la tête. Stéphane, t'as eu bien les cheveux dressés sur la tête, toi aussi ?
Ah oui, je me suis dit, franchement, samedi et dimanche, quel cirque, vraiment. c'était pas les conditions idéales pour couronner un champion du monde. On savait que ça arriverait tôt ou tard, mais spécialement un samedi, oui, c'est assez incongru.
Et puis on reviendra aussi, parce que pendant que Max Verstappen n'en finit pas d'abattre les records, son coéquipier Sergio Pérez lui donne le sentiment d'être débordé par la pression avec un enjeu simple. Pour sauver sa peau chez Red Bull, Pérez doit conserver la deuxième place du championnat. C'est ce qu'on a cru comprendre, et si ça n'est pas le cas, s'il ne termine pas vice-champion du monde, eh bien il sera tout simplement plus chez Red Bull en 2024. On en parlera pendant ce podcast que vous pouvez retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, de Deezer à Spotify, en passant par Acast ou par Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et aussi à vous abonner. Et de cette manière, vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. Alors on commence les fous du volant aujourd'hui avec un petit peu ce qu'on redoutait la semaine dernière. Et ça n'aura été finalement qu'un des soucis rencontrés pendant ce Grand Prix du Qatar, le fait que le titre de champion du monde, le troisième titre de champion du monde, soit attribué à Max Verstappen à l'issue de la course sprint. On s'en doutait, c'est arrivé. Et au final, ce Grand Prix du Qatar a été une sorte de laboratoire de tout ce qu'on n'a pas envie de voir en Formule 1. Donc ce titre le samedi qui finalement... c'est le clou du spectacle avant le spectacle, parce que c'est quand même le Grand Prix qui est le show principal. Les vibreurs destructeurs de pneus, de planchers, on a découvert ça vendredi finalement, ça paraît complètement fou. Bilan, on a ripolliné une partie de la piste pour agrandir les vibreurs par l'intérieur, c'était déjà assez artisanal, assez cocasse, et on a même été dans un deuxième temps obligé de limiter le nombre de tours pour chaque relais pour éviter tout souci avec les pneus Pirelli. Et puis évidemment, ces dégagements bitumés qui nous ont encore pollué toutes les séances avec des chronos annulés à l'appel. Stéphane, on a vraiment eu mal au crâne pendant 3 jours.
Oui, ça a donné un sentiment d'impréparation. Et pour ce circuit même, on peut se poser la question de son avenir dans cette définition-là. Il est un petit peu au milieu de nulle part, il n'y a pas beaucoup d'ambiance. Le Qatar essaie de créer une tradition de façon spontanée pour les sports mécas, mais il faudra certainement y revenir pendant pas mal de temps et dans des épreuves beaucoup plus cadrées et préparées, parce que même la question des vibreurs, c'est pas quelque chose qu'ils découvraient, ça avait posé problème il y a 2 ans. Les pneus durs en fait étaient l'objet de crevaison au bout de 30 tours. J'ai regardé, Gasly en Q3 avait crevé, donc je pense avec des pneus tendres. Ça veut dire que ce problème-là était connu. La FIA a imposé ses vibreurs agressifs Et puis, bon, on a beau dire aux pilotes, n'y allez pas, ils y vont quand même parce que c'est pour gagner de la perfo. Et, à l'origine, et c'est pour ça, même conséquence ultime dimanche, qu'on a eu que 19 pilotes sur la grille parce que Fred Vasseur a expliqué chez Ferrari que c'était ces tremblements, ces à répétition qui ont cassé, endommagé le système d'alimentation d'essence de la Ferrari. Donc là, vraiment, la copie est à revoir de fond en comble, de A à Z.
C'est quand même incroyable qu'on n'ait pas fait tourner une voiture éventuellement de la saison précédente avec des pneus, histoire de voir si tout allait bien une fois qu'on avait refait. Enfin, vraiment, moi, ça m'a paru complètement fou. Je disais assez artisanal, grotesque d'une certaine manière. Alors, le seul avantage finalement de la situation au Qatar, c'est que avec cette limitation à 18 tours par relais, on a compris très très vite que ça allait rouler absolument à fond pendant le Grand Prix. Et je vais te dire maintenant le moment où moi je passe de la frustration à vraiment la colère. C'est que on comprend que ça va rouler à fond et en même temps on sait qu'il va y avoir une association humidité et chaleur, parce qu'en fait il a fait 32 degrés hein, pendant la course. C'est pas une chaleur extrême, c'est surtout l'humidité qui a posé des problèmes aux pilotes, qui ont fini complètement exténués. On en a même certains, on pense à Logan Sargeant qui a carrément abandonné parce que il ne tenait plus. On sait que Esteban Ocon a vomi dans son casque au bout de 15 tours, enfin tellement c'était des conditions difficiles. Et moi en fait ça me montre en creux à quel point sur les autres Grands Prix, eh ben on roule à l'économie, à quel point la discipline Formule 1 est devenue avec le manufacturier en fait une sorte de perversion des sports mécaniques. Ça n'est plus une course à la performance, c'est juste une question de gestion des pneumatiques. Et franchement, j'ai eu le sentiment dimanche, ça va te faire sourire Stéphane, pas que la Formule 1 nous montrait sa petite culotte là. Voilà, là on voyait vraiment ce qu'elle avait, ce que chaque voiture avait au fond des tripes, tout ce que ces autos peuvent donner en performance, dépassant même les capacités de ces pilotes. George Russell, il a dit qu'il a cru qu'il allait se sentir mal dans la voiture. Et là, on était finalement dans un Grand Prix à la performance et pas à la gestion du pneu. Ce qui, moi, me fait dire qu'il faut absolument arrêter le manufacturier unique en Formule 1.
Mais il vient de
revenir
signer,
à la confrontation
chance, hein,
sur les pneus. T'es pas d'accord?
Alors, Pirelli a été re-signé, mais alors, Gilles, avec ce niveau d'épuisement des pilotes, comment est-ce que tu tiens un calendrier à 24 épreuves? Si la Malaisie revient, si on a d'autres Grands Prix à l'avenir qui sont aussi épouvants, il n'y avait pas que ça. De toute façon, le vent aussi déstabilisait les voitures. Le sable, on l'a vu, c'est vraiment une calamité. Enfin, c'est le circuit de tous les défauts. On nous explique que c'est formidable. Alors, le circuit est au calendrier maintenant. Là, c'est signé depuis 2032. Donc, on en a pris pour quelques années, mais il va falloir corriger le tir. De toute évidence, c'est vrai. Verstappen a dit, nous, on était obligés de faire 18 tours maxi, donc on n'a même pas pu rouler comme on voulait. C'est un petit peu ça, même en attaquant à fond. Alors, c'est un paradoxe, parce que on les a vus, les pilotes, alignés des tours de qualif. Il y en a qui ont dit, moi, c'était que des tours de qualif. Je crois que c'est
Norris
qui a dit ça. Mais pour tous, hein, c'était pareil. Donc ça, c'était plaisant. Mais c'est vrai que quand tout le monde est sur une stratégie à trois arrêts, bah, il n'y a pas de suspense. Chacun fait sa course et réagit aux arrêts des autres, et puis il ne se passe rien. Donc moi j'aimerais une définition de la Formule 1 où il y a un suspense au départ, à chaque fois, entre un ou deux arrêts, deux ou trois arrêts, de façon à avoir des décalages, et puis qu'on ait le sentiment que les pilotes attaquent quand même pour se
Mais
mettre
pour
un
ça,
petit peu dans
rouge. Pour avoir des stratégies différentes, il faudrait que les pneumatiques donnent la possibilité d'avoir des stratégies différentes. Et là, le problème, alors, je ne m'attaque pas forcément à Pirelli. Peut-être qu'il faut qu'on donne les moyens aux manufacturiers aussi d'amener une palette de pneumatiques qui permettent d'avoir des confrontations de stratégies qui autorisent ensuite des paris, en tout cas des choses différentes en course, et qui maintiennent un suspense. Mais franchement, là, j'ai trouvé que les pilotes, ils s'adapteront. Hein. Les voitures s'adapteront. Si d'un seul coup, on peut faire des Grands Prix où on est à pleine charge du premier au dernier tour, ça paraît complètement dingue. J'ai envie de me cogner la tête contre les murs quand je dis ça. si maintenant on peut avoir des grands prix où les Formule 1 sont à fond, ce qui devrait être la norme, on va être obligé de modifier les voitures et faire en sorte que les pilotes aient plus d'air à l'intérieur des cockpits, parce que sinon ils tiendront pas, hein. Là on a bien vu qu'ils avaient trop chaud. Physiquement ils sont capables de tenir, c'est juste cette extrême humidité, cette extrême chaleur, cette déshydratation qui a fait que on a vu quelques pilotes au bord du malaise. Mais maintenant, allons-y, on a vu ce que ça pouvait donner. Il peut y avoir quelque chose de bien de cette expérience, mais franchement, ce Grand Prix, moi, ça m'a vraiment donné le sentiment, bah voilà, aujourd'hui, on a roulé à fond, vous inquiétez pas, dans 15 jours, on reprendra notre train-train.
Alors, tu sais comment ça marche, Gilles, y a un cahier des charges, et Pirelli se conforme à ce cahier des charges, et je pense que si un concurrent arrive et devient aussi manufacturier unique, il suivra ce cahier des charges, tout simplement. Et tu sais comment ça se passe aussi, les tests de pneumatiques, on donne des pneumatiques à toutes les écuries, et les écuries disent si elles en veulent ou pas, et vers quoi il faut s'orienter. Donc le produit pneu qu'on a aujourd'hui, c'est d'abord la demande des écuries, point. Et Pirelli n'y est pas pour grand-chose dans cette histoire. Et il y aura toujours des gens qui seront mécontents de ça, des gens qui aussi trouvent que, globalement, il manque de grip sur leur voiture. Donc, c'est une demande récurrente des pilotes d'avoir plus de grip, de pouvoir attaquer un petit peu plus. Enfin, c'est le serpent qui se mord la queue. Mais les courses sont suffisamment intéressantes d'habitude. Si on a une possibilité de stratégie ouverte, là c'était un cas extrême. Si les pilotes, je te le redis, Gilles, franchement, si c'est des courses comme ça qui sont épuisantes, eh ben, les pilotes ils vont faire aussi des carrières courtes. On les verra 7 ou 8 ans en Formule 1, puis après ils s'en iront, mais usés, parce qu'on ne tiendra jamais à ce rythme-là sur 24 courses dans l'année. Là, je suis content pour eux, ils vont avoir 10 jours pour se reposer avant la prochaine épreuve. T'imagines, on attaque après sur un triple leader, donc 3 grands prix, 3 dimanches de suite. Si tu as 2 grands prix comme ça qui sont extrêmement éprouvants dans ces trois, ou même carrément les trois, ça devient complètement impossible. Et puis alors là, après, l'épuisement, le manque de lucidité, un petit peu plus d'accidents. Enfin, moi, j'étais étonné samedi de ne pas avoir plus d'accidents que ça, franchement. Donc, dimanche, on s'en sort bien.
Stéphane, il y a une autre chose qui, toi, a vraiment attiré ton attention. C'est finalement avec notamment Piastri qui apprend qu'il est pénalisé en direct devant les caméras, quoi.
En fait, moi, ça m'a rappelé l'attribution du titre, l'annonce des circonstances de l'attribution du titre de Verstappen à Suzuka en 2022. On termine une course et dans les pilotes aux avant-postes, en fait, il y a des gens qui sont sous enquête, qui peuvent rétrograder de position. Et c'est ce qui s'était passé par la combinaison aussi de l'application d'un barème qu'on pensait être un barème adapté à une course qui n'était pas allée jusqu'à son terme. Bon, il y avait eu un quiproquo. Et là, on recommence, en fait, tout simplement. Donc, ce qui est arrivé à Piastri et à Norris aussi prouve que on va se retrouver dans ce schéma-là. Et là, je me suis dit, c'est encore le business avant le sport. La qualif est terminée. Les pilotes McLaren sont sous le coup d'une enquête pour dépassement de limites qui sont évidents. Norris en prend acte à la fin dans son tour de rentrée. Il se maudit. Il va quand même installer sa voiture en deuxième position dans le parc fermé. Et puis, il y a Russell qui est là et il y a Verstappen, donc les trois premiers. Et puis, dans ce déroulement, en fait, on comprend qu'il faut avancer, que la FIA n'a pas encore décidé, mais de toute façon, il faut faire parler les gens pour une raison très très simple, c'est que le promoteur, il doit présenter des prestations.
Assez
rythmé à la télévision, voilà, donc ça se termine, donc pas de temps mort. On est sur quelque chose qui doit aller vite, à cadence forcée. Et donc on dit, on passe aux interviews, on ne sait pas qui est réellement premier, deuxième ou troisième. Alors Norris, il comprend dans le parc fermé qu'il ne sera pas deuxième, qu'il est rétrogradé, qu'il perd tous ses chronos, qu'il est dixième, donc il s'en va. Et Senkocas, une fois son interview terminée, Russell dit, où est Lando, voilà. Et puis là, voilà que se présente en fait Piastri, qui pense être le troisième homme et qui commence à parler. Et là, on lui dit aussi, bah, vous avez écopé d'une pénalité, donc chrono annulé, vous n'êtes pas troisième. Et c'est extrêmement regrettable parce que tu as vu quand même l'ironie avec laquelle il a accueilli ça. Il a dit bravo, enfin, il a dit super. Hein. Donc, il n'était pas très, très content. Et moi, je pense que ça fait un peu passer le sport pour quelque chose qui est un peu improvisé, qui est mal cadré. Et pour une discipline d'envergure mondiale, vu les audiences qu'ont pris qu'a pris la Formule 1 depuis 2017, je trouve qu'on ne devrait pas tomber dans ces cas de figure. Moi, je me rappelle, Suzuka en 89, accrochage Prost-Senna, on attend 20 minutes pour déclasser Senna. Il n'y a pas de podium et on attend. Et c'est bien comme ça, parce qu'on fait monter les bonnes personnes sur le podium, et après, on n'y revient pas. Et là, ça crée de la confusion, franchement. Et ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, quoi qu'il arrive, quand une qualif sera terminée, quand une course sera terminée, il faudra passer aux interviews, faire parler les gens, même si ce n'est pas les bonnes personnes. Et bah, j'aurais aimé voir Lewis Hamilton, réellement troisième sur la grille, aux interviews, plutôt que se précipiter et dire « Ah, maintenant, ce n'est pas un tel, donc on fait venir un tel. » Et puis, non, ce n'est pas lui. Et puis, en fait, le troisième, on ne l'a pas. Bon.
Mais en fait, moi, je pense que la vraie responsabilité, c'est pas tant le fait qu'il y ait qu'on ait été en direct à ce moment-là et qu'on ait envoyé les pilotes à l'interview. Le vrai problème, on en revient à ce qu'on disait, c'est qu'on fait des dégagements bitumés qui sont infernaux et du coup, on se retrouve à arbitrer des situations alors que si on mettait du bac à gravier, ils n'iraient pas. Point, c'est tout. Ils n'iraient pas.
Ce circuit, Gilles, je ne veux pas te l'apprendre, il sert aussi pour la MotoGP. Donc,
on en revient à ce qu'on avait évoqué un petit peu plus tôt cette saison. Il va falloir trouver une solution pour faire que les circuits soient utilisables par les deux disciplines. Et ça va passer par des aménagements entre la MotoGP et la Formule 1. Stéphane, je te propose de passer quand même au cas de Max Verstappen parce que ce week-end, bon, comme attendu, hein, le Néerlandais est allé chercher sa troisième couronne mondiale. Alors, c'était le samedi à l'issue de sa deuxième place obtenue en course sprint. Et puis dimanche, Max Verstappen est allé chercher la 49e victoire de sa carrière, la 14e cette saison. Et en fait, on l'avait évoqué plusieurs fois cette saison, hein, Stéphane. C'est une machine. Ah oui, c'est ça, à battre des records. Au point, on se faisait la réflexion en préparant le podcast aujourd'hui, Stéphane, au point d'en arriver à effacer bientôt Sébastien Vettel. J'allais dire Stéphane Vettel, tu vois à quel point je te tiens en très haute estime.
Merci, Gilles.
Au point d'effacer presque Sébastien Vettel maintenant des tablettes de chez Red Bull. C'est le mythe fondateur qui va bientôt s'éclipser face à Max Verstappen.
Exactement. Alors, Vettel, c'est quand même le pilote qui a ouvert toute cette saga chez Red Bull. Mais l'écurie avait subi la domination de Mercedes. Et c'est lui qui a redonné ses lettres de noblesse à cette écurie. Parce qu'il y avait même un moment, hein, on ne savait pas si l'écurie allait poursuivre en Formule 1 parce qu'ils avaient un problème de fournisseur moteur. Renault, pour ne pas le nommer, et ils ont fait un pari sur Honda. Bon, on y reviendra. Mais là, ce qu'on s'aperçoit quand même, c'est que Verstappen, course après course, est en train d'effacer un à un, patiemment, les records de Vettel. C'est hallucinant. Là, il a maintenant, il est à la tête du plus grand nombre de tours faits en tête. Il a battu le record de Vettel qui datait de 2013. Donc, il en a quand même 739. T'imagines, Gilles, c'est juste incroyable. Et puis, c'est un rouleau compresseur. Il a gagné pour la 14e fois de suite en partant de la pole position. Alors, ça aussi, ça nous pose un problème. On y reviendra peut-être dans une autre émission. Mais ça veut dire que quand il part de la pole position, il ne peut rien lui arriver.
Et il est imbattable.
Il a une hésitation, son équipe corrige le tir, et ce qui fait qu'il est absolument imbattable. Là où il pourrait avoir montré une défaillance, eh ben ses équipiers sont là pour leur mettre sur les rails de la victoire. 10 pole positions, c'est aussi son record égalé de la saison 2021. Il reste 5 courses encore à disputer d'ici la fin de la saison. Bon, 10e hat trick, alors Schumacher en a 22, mais au stade où il en est dans sa carrière, c'est quand même impressionnant. 4e grand chelem, pole position, victoire, meilleur tour en course et leader de bout en bout. Voilà, tout ça fait que c'est juste hallucinant. Et puis, j'ajoute 209 points d'avance au championnat sur le deuxième. Les 155 points de Vettel en 2013 aussi sont loin. Bon, c'est voilà. Et puis, c'est des courses, 36 courses de suite dans les points. C'est la deuxième plus longue série de l'histoire de la F1. Voilà, donc il est là avec une constance absolument impressionnante. Ça veut dire qu'il ne fait aucune erreur. C'est ça ce que ça veut dire, ces chiffres-là. C'est juste hallucinant. Et puis, il est polyvalent. 24e victoire sur un circuit différent. Ça aussi, c'est pareil. Alors, il oui. approche du record de Hamilton, 31, je crois. Tout ça fait que, voilà, il est à 3 titres. Et puis, on a l'impression que ça va rouler et qu'il va arriver sur les 4 titres de Vettel.
Exactement. Maintenant, on se dit que finalement, bah, l'année prochaine, ça sera fait. Et là, pour le coup, Vettel disparaîtra. Alors, dans les records qu'il doit encore, qu'il peut aller chercher, il y a non seulement Sébastien Vettel, mais là, dans les noms qu'on va citer, il y a du très, 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 très lourd.
Oui, bah alors, non, mais c'est hallucinant. J'entendais dimanche, 49e victoire, je dis tant que ça, mais c'est juste incroyable, on ne les voit pas défiler, hein, franchement. Et donc encore 2, et puis Prost sera dans le rétroviseur. Encore 4, et c'est Vettel, donc c'est là où c'est du concret, ouais, ouais. Il s'attaque à Vettel. Franchement, sur toutes les bases, il a battu cette année le record de 10 victoires, je crois, de suite. Le record, c'était 9 Vettel. Il efface tout méthodiquement, c'est juste incroyable. Et la seule réponse qu'il a dimanche, c'est « je veux continuer de gagner ». Voilà. Donc, bon, très bien. C'est juste impressionnant.
Et, il y a d'autres grands noms aussi.
Il y a d'autres grands noms maintenant devant. On parlait des 4 titres. Alors, c'est Vettel, c'est Prost. Les 5 titres, c'est Fangio. Et puis, au-dessus, il y a, en bout de chaîne, il y a Michael Schumacher et Lewis Hamilton. Leurs 7 titres. Alors, je ne sais pas s'il ira jusque-là. Il a un contrat jusqu'en 2028. Donc, il peut faire même 8 titres. Hein. Donc, il est lancé.
C'est,
et rien
c'est peut-être
pas l'arrêter.
Ce qu'on va souhaiter pour la discipline.
Tout à fait. Et puis, Marco disait dimanche, il gagne avec 4 secondes, je crois, d'avance sur Piastri. Il a dit, en fait, avec la stratégie, il n'a pas pu faire ce qu'il voulait. Il était beaucoup plus dominant que ça. Merci, circuler, il n'y a rien à voir.
Exactement. Alors, justement, samedi, Max Verstappen est allé chercher sa troisième couronne. On s'est posé la question, finalement, quel était lequel de ces 3 titres qui est le plus impactant avec Stéphane. Alors, d'après toi, Stéphane, quel est ton avis? C'est quoi le titre le plus fort, le plus beau de Max Verstappen?
Le plus fort, le plus beau, le plus impressionnant, c'est 2021. Et oui. En plus, au bout, de toute façon, il y a quelque chose qui lui ressemble beaucoup, c'est son côté voltigeur. Lors de cette finale à Abu Dhabi qu'on ne va pas refaire, mais il rentre sans arrêt à la première opportunité pour repasser des pneus tendres. Pour essayer de faire son retard, de couper les stratégies d'Hamilton. C'est un petit peu comme un joueur au casino qui remet sa mise en jeu en permanence. Et c'est comme ça qu'il était Max Verstappen jusqu'à la fin de cette saison 2021. Un voltigeur avec un style très, très agressif. Et puis, il met fin à toute une série de titres de Mercedes. 7 titres consécutifs depuis 2014, le premier titre d'Hamilton dans l'ère hybride. Donc, il y avait c'était la fin d'une époque et c'est lui qui a vraiment tourné la page de ces années Mercedes. C'est juste impressionnant.
Mais tu fais bien de le signaler parce que finalement, cette finale à Abu Dhabi, elle est tellement entachée par cette gestion catastrophique de la course, par la direction de l'épreuve, qu'on en oublie un petit peu le côté sportif. Alors, on ne va pas refaire cette course qui aurait mérité en fait d'être recourue. Mais oui, clairement, c'est ce titre en 2021.
Tout à fait.
Qui est de loin, alors, est de loin le plus beau.
Attends, parce qu'il y a...
Déjà mathématiquement, c'est le plus serré de ces 3 titres. Hein. 8 points d'avance à la fin de la saison par rapport à Lewis Hamilton. L'année dernière, il en avait 146. Et là, cette année, il reste encore 5 Grands Prix. Il a déjà 209 points d'avance sur son plus proche poursuivant. Bon, là, tu le disais, hein, le record va être battu. Et moi, ce que je trouve, c'est que... Alors, il y a ce titre en 2021.
Donc,
et
ça
y a
veut
un
dire
avant,
que tu es d'accord avec moi sur 2021, sur son plus beau titre.
Clairement,
Oui.
c'est clairement, c'est logique. Et puis surtout, il y a un avant et il y a un après. Le Verstappen qui arrive début 2022, c'est plus du tout le même que celui qu'on a vu jusque fin 2021. Il paraît beaucoup plus serein. On a le sentiment que ça y est, il a coché cette case. Il a été champion du monde de Formule 1 quelque part. Il donne l'impression qu'il ne peut plus rien lui arriver. Il a touché son Graal. Il va continuer à aller en chercher d'autres, mais quoi qu'il arrive, il a eu ce qu'il voulait. Rappelle-toi, hein, début 2022, il y a des problèmes de fiabilité sur la Red Bull. Et il le dit, c'est Leclerc qui prend un excellent départ. Et il le dit, il va falloir vite corriger ça, parce que sinon, on va pas s'en sortir. Et il fait son retard. Elle est belle aussi, cette couronne en 2022. Mais la plus belle, ça reste pour l'instant, en 2021. On verra ce que nous réserve l'avenir.
Je vais te dire, Gilles, ce titre en 2021, il donne de la valeur au titre de 2022 et 2023. Qu'est-ce qu'on lui a dit en 2022 et 2023? On lui a répété, on lui a rabâché qu'il avait la meilleure voiture du plateau et que c'était facile pour lui. Et c'est vrai que s'il n'avait pas été champion en 2021, il traînerait ça comme un boulet. Il a battu Hamilton, il a mis fin à l'hégémonie d'Hamilton. Et j'ai noté, hein, 2021, il est face à Hamilton, il est champion face à Hamilton, c'est quand même pas rien. En 2022, face à personne, on est d'accord, Gilles. Et puis en
Ah, c'est
2023,
Leclerc qui termine deuxième quand
oui. Oui, tout à fait, mais Leclerc, il est loin. Voilà, il décroche à mi-saison, au mois de juillet,
Oui, mais
c'est
alors,
terminé.
si
Après le
en
Grand Prix de France, il n'y a
2022 il
plus
est
rien.
champion du monde face à personne, alors en 2023
Ah
il
ben,
est
je vais te
champion
donner le
du
nom
monde.
de son principal contradicteur cette année. Gilles, tu le connais aussi bien que moi. C'est Giampiero Lambiassé. C'est celui qui lui a donné le plus de fil à retordre à la radio. C'est dire si il avait de la marge cette année. Et c'est pas pour rien d'ailleurs que Lambiassé était sur le podium dimanche, faute de pouvoir être sur le podium de la course sprint samedi. C'est pour moi, c'est ça vraiment. Et là, après, c'est vrai que l'intelligence a fait que il a shifté en 2022 et 2023. Il a eu une priorité qu'on lui connaissait pas, c'était de faire des courses safe, de ne pas faire d'abandon. Et c'est comme ça que il a usé Ferrari derrière lui. Leclerc a pris de plus en plus de risques. Et cette année, il avait de la marge et il s'est pas mis dans le rouge. Clairement, mais il a piloté avec beaucoup d'intelligence. Les gens ont tous dit chez Red Bull que il avait tout le temps tout sous contrôle. Et pendant cette année-là, il a développé aussi une voiture qu'il a façonnée
Ah
pour
oui.
lui de plus en plus. C'est comme ça qu'il a pris de plus en plus d'avance sur Checo Pérez.
Et puis, pour en terminer sur le sujet, c'est Lewis Hamilton, hein, qui a eu des mots aussi très élogieux envers Max Verstappen ce week-end au Qatar. Comme quoi, voilà, hein, cette conclusion de la saison 2021, elle a été ce qu'elle a été. N'empêche que il inspire le respect aussi d'un garçon comme Lewis Hamilton. Quelque part, la boucle est bouclée et on aura du mal à maintenant contester le mérite exceptionnel qu'a Max Verstappen dans ses trois couronnes consécutives. Et il n'y a plus qu'à souhaiter maintenant que quelqu'un, oui, vienne lui donner la contradiction dès l'année prochaine. Ah, ça viendra peut-être du côté de chez McLaren. On va voir ça. Alors, si Max Verstappen est absolument dominant, Stéphane, cette saison, en revanche, de l'autre côté du garage de chez Red Bull, ça commence à être de plus en plus tendu, de plus en plus inquiet. L'avance de Max Verstappen par rapport à Sergio Pérez a dépassé les 200 points. On en est à 209 points. Sergio Pérez qui a eu un week-end quand même pas loin d'être catastrophique. Je ne sais pas si tu me corrigeras ou pas. Huitième de la séance du shootout. Sortie de piste lors de la course sprint, pris dans l'accrochage avec Esteban Ocon et Nico Hülkenberg. Du coup, on lui refait une voiture toute neuve quasiment. Il s'élance des stands dimanche. Mais quand on voit la remontée de George Russell, qui lui aussi est sorti au premier virage, et il remonte quand même quatrième, George Russell, lui, Sergio Pérez, termine dixième à l'arrivée. On avait parlé du ratio de points la semaine dernière entre finalement les plus gros écarts entre le champion du monde et leur coéquipier. On est passé du mauvais côté de la limite là pour Sergio Pérez, non?
Oui, avant d'en venir juste à ça, j'ajouterais aussi qu'il s'est quand même pris une seconde pleine en qualif vendredi par Verstappen et qu'il s'est fait éliminer une fois de plus. En Q2, c'était la cinquième fois de la saison et trois fois en Q1. Tout ceci est extrêmement embarrassant. Ça lui fait 12 défaites consécutives maintenant face à Verstappen. Et je ne pense pas qu'un coéquipier ait fait pire chez Red Bull par rapport au Néerlandais. Effectivement, on avait parlé récemment dans Les Fous du Volant, on avait comparé le ratio de points obtenus par un pilote par rapport à son coéquipier champion du monde. Quand ce pilote était vice-champion du monde, les écarts, et on avait vu que la référence restait 1992. Patrese avait seulement amassé 51,9% des points de Mansell. Il y avait d'autres exemples dans ce genre-là, 97, Frentzen par rapport à Villeneuve, ça donnait le même ratio, 51,9. Et puis, il y avait les 53,5 seulement de Barrichello par rapport à Schumacher lors de son extraordinaire saison 2022. Et Checo, jusqu'à présent, était 55%. Donc, ce qui n'était pas beaucoup, eh bien, figure-toi que dimanche, il est passé sous les 52% à 51,7. C'est le pire ratio de l'histoire de la Formule 1, tout simplement, entre deux coéquipiers qui ont l'ambition de terminer aux deux premières places du championnat. C'est là aussi où ça montre que c'est pas tenable, pour moi, je dirais. Là, on est loin de la légende de Checo que soulignait Verstappen au Grand Prix du Mexique, non, au Grand Prix d'Abu Dhabi, en 2021. Oui. Là, on est plus proche des standards d'un pilote AlphaTauri. En fait, j'ai l'impression qu'il y a une Red Bull et il y a trois AlphaTauri sur le plateau.
Alors justement, tu fais bien d'évoquer ce point parce que une des petites indiscrétions qu'on a eues ce week-end au Qatar, c'est que ça se précise pour l'avenir de Sergio Pérez. S'il ne termine pas à la deuxième place du championnat, s'il n'offre pas ce doublé au classement des pilotes à Red Bull, qui n'a jamais réussi à faire ça, on le rappelle. Hein. C'est pour ça que c'est sans doute très très important pour l'équipe de Christian Horner. S'il ne termine pas deuxième du championnat, eh bien Sergio Pérez va perdre son volant chez Red Bull en 2024. C'est ce qui est ressorti là des petites infos qu'on a pu avoir
provenance. C'est pas une petite info là, c'est vraiment un scoop et c'est assez logique, c'est assez crédible, je dirais. Et ça fait plusieurs semaines maintenant que Horner se tient dans un discours, on le soutient, oui, etc.
Mollement.
Mollement. Mais il lui a quand même envoyé un tacle en disant que 15 secondes de pénalité, donc 3 pénalités de 5 secondes, c'était beaucoup trop et que ça avait cassé complètement sa course et son résultat. Et qu'il n'avait pas profité de l'opportunité de faire un gros résultat le jour où Hamilton avait abandonné. Donc c'est là aussi où il met quand même la pression. Et Horner a dit qu'il va falloir qu'il retrouve sa forme de début de saison.
Exactement. Bah alors justement, c'est impeccable ce que tu me fais, Stéphane, aujourd'hui, parce qu'on va en reparler de ce début de saison. Après l'Azerbaïdjan, il s'était pris à rêver, finalement, Sergio Pérez. Il avait remporté à ce moment-là 2 victoires sur les 4 premières courses de la saison. Il avait 6 points de retard sur Max Verstappen. Et à ce moment-là, il se lâche et il dit je peux jouer le titre cette année. Et en fait, il va complètement perdre pied derrière. Un petit chiffre, Stéphane. Donc à ce moment-là, il a 6 points de retard sur Max Verstappen après 4 Grands Prix. Depuis Bakou, on a disputé 13 épreuves. Max Verstappen a marqué 340 points, Checo Pérez en a marqué 137. Si on reprend le même calcul que tu as fait, le ratio entre les deux, alors là, on n'est même plus à 50%. C'est 40,3% de points marqués par Checo par rapport à ceux de Max Verstappen. Il a complètement dévissé par rapport au Néerlandais. Et ce qui ressort un petit peu de ce qu'on voit autour de Sergio Pérez, c'est que maintenant, il est seul. Et en fait, il veut être seul. Il a demandé à son entourage proche de plus venir sur les circuits pour l'accompagner. Il ne veut plus aucune distraction. Et je crois qu'il est en train de s'isoler. Il est en train de s'enfermer. On ne voit plus son père. On ne voit plus son manager, Julian Jacobi. Tout le monde est tenu à distance par le Mexicain lui-même, et ça me fait un petit peu de peine parce que j'ai l'impression que voilà, il s'enferme dans sa bulle et il voit pas finalement que il est en train de perdre pied dans cette histoire.
La clé de ses problèmes, il l'a donné vendredi dans une interview à Sky. Il a dit: quand on a commencé à développer la voiture, elle m'a échappé. J'ai été à la recherche du bon équilibre et j'ai dû faire des compromis avec une voiture qui ne change pas autant sur l'année. ce qui aiderait à être plus régulier, ce serait la clé. Voilà. Alors, globalement, Pierre Vacher a donné une interview aussi à Canal+, et il a dit qu'après chaque séance d'essai importante, après chaque roulage, il fait un débrief avec Max Verstappen, il recueille ses impressions, et il lui parle aussi des évolutions qu'il a dans les cartons, et il s'assure qu'elles conviendront bien à Max Verstappen, il lui en parle, ils en discutent tous les deux, donc la voiture, elle évolue clairement pour Max Verstappen vers une voiture qui a toujours plus un train avant fort, parce que Max Verstappen réclame ça pour pouvoir s'inscrire de façon agressive avec beaucoup de grippe à l'avant dans les virages. Et en fait, Checo, à ce tarif-là, il ne s'en sort pas parce que lui, il est sous-vireur, il ne supporte
mais
pas
lui, il le train arrière. Mais lui, il explique cette conversation, donc.
Voilà, tout à fait, le train arrière glisse. Alors, ça donne des choses comme qui ne sont pas si surprenantes que ça, 7 dixièmes d'écart sur un tour à Suzuka, parce que quand tu es un pilote sous-vireur, tu n'es pas bien dans les S derrière les stands. Alors que Verstappen, justement, faisait une grande partie de la différence là-dedans parce que c'est un enchaînement de 6 ou 7 virages à haute vitesse. Il ne faut pas perdre le train avant. Et là-dessus, il fait une différence absolument gigantesque. Et Gilles, si tu regardes bien aussi la hiérarchie de cette qualification, eh bien, Leclerc qui est sur vireur, il est devant Sainz. Hamilton qui est sur vireur, il est devant Russell, etc., etc. Donc ça commande quand même une partie des performances de temps à autre. Et là, avec cette voiture-là, de toute façon, il ne peut pas s'en sortir. C'est pas possible et ça va évoluer. Je veux dire même, ça va empirer.
Alors, maintenant, l'échéance, on l'a dit, hein, s'il ne termine pas vice-champion du monde, Christian Horner lui retirera le volant pour l'année prochaine. Il a eu beaucoup de chance quand même, Sergio Pérez, parce que ce week-end, il ne perd que 3 points malgré l'abandon de Lewis Hamilton après l'accrochage avec George Russell au premier tour. C'est presque inespéré, hein. Il a encore 30 points d'avance, sauf qu'il reste 5 Grands Prix à disputer, dont 2 sprints à Austin et au Brésil. Ça fait des points en plus potentiels pour Lewis Hamilton. Et quand on voit le rythme qu'avait George Russell en course dimanche à Losail, on se dit que Lewis Hamilton, 30 points de retard sur un Checo Pérez qui paraît vraiment aux abois, c'est faisable. Tu vois, je vais garder mon pronostic que je faisais la semaine dernière en disant que Checo Pérez va conserver la deuxième place. Je commence à avoir un peu chaud quand même. Et lui aussi, je pense.
Oui, je pense qu'il ne s'en sortira pas. Le plus étonnant d'ailleurs dans tout ça, c'est là où il ne s'y retrouve pas bien. Verstappen n'a pas été averti sur les limites de piste. De toute façon, il était, on ne va pas dire le coup de la portière parce que ça serait insultant par rapport au travail extraordinaire qu'ont fait les 20 pilotes qui ont été extrêmement courageux ce week-end au Qatar. Mais il avait une certaine marge. Avec un train avant fort, quand même, tu gères ta voiture dans les virages et tu gères ces questions de limites de piste. Tu sais exactement où va aller ta voiture. Et Pérez, c'est vrai, on avait vraiment l'impression qu'il ne savait pas où il la mettait. Il disait, vous savez, c'est très, très difficile de voir précisément où est la voiture. Ça veut dire qu'il rentre dans un virage et il ne sait pas à 20 ou 30 ou même 50 cm près où est-ce qu'il va la placer. Sur des problèmes de comportement de tenue de route, il y a des pilotes parfois qui mettent en avant des imprécisions beaucoup plus grandes que ça parce qu'ils ne savent pas composer avec une voiture comme ça qui est délicate. Et Pérez, il était juste perdu. Et la chaleur, les contraintes, la difficulté a fait que, je pense aussi, la fatigue lui a fait manquer de lucidité.
Beaucoup de pilotes, on le voyait bien, beaucoup de pilotes ont perdu de la lucidité aussi au fur et à mesure de ce Grand Prix.
Voilà, il y en a qui ont dévissé à cause de ça. Mais l'embêtant, c'est qu'il n'y a rien pour le rattraper. Je ne vois pas comment est-ce qu'il peut s'en sortir maintenant.
Tu sais, je vais revenir sur son isolement, sur le fait qu'il ne veuille plus personne autour de lui. Ce qui peut éventuellement le sauver, c'est qu'il va y avoir Austin et ensuite il y aura le Mexique. Là, forcément, il y aura son entourage. Et là, peut-être qu'à ce moment-là, on va pouvoir finalement, du côté de l'entourage de Sergio Pérez, crever cette bulle et lui dire « Hey, tu sais le faire, il faut que tu y ailles, quoi. » Mais j'ai presque de la peine pour lui, honnêtement, parce qu'on a le sentiment de voir un hamster là, dans sa roue et il n'arrive plus du tout à… C'est quand même un pilote talentueux, c'est pas Max Verstappen, d'accord, mais quand même, Il sait faire des choses. Et là, c'est même plus le Sergio Pérez à son meilleur niveau, alors que c'est le moment maintenant bah, pour sauver sa peau, quoi.
Bah, il fait même plus un travail numéro 2, c'est ça qui est complètement dramatique. Il y a que ça qui le faisait exister. Il a joué un rôle fondamental hein, dans le titre de Verstappen en 2021. Alors c'est Verstappen qui a fait tout le travail, mais quand il fallait filer un coup de main, il n'a jamais rechigné
il
pour
était là.
Bloquer Hamilton, pour lui rendre la vie dure. Et c'est là-dessus qu'il avait construit un petit peu sa réputation. C'est pour ça qu'il était apprécié, parce qu'il était capable de sacrifice. Et là, il n'est même plus capable de rien. Quand il part 7e ou 8e ou 9e, on sait qu'il ne va pas peser sur la course. Absolument pas. Et puis, il est tétanisé au départ de la course sprint. Si c'est bien ça, il perd 3 places. Donc, ça veut dire qu'il est d'une fébrilité extrême. Il s'accroche avec des gens comme Hülkenberg et Ocon qui sont en bagarre. Ça ne devrait pas arriver parce qu'il ne devrait pas rouler avec des gens comme ça. Donc, c'est un cercle vicieux. C'est tout simplement ça. Je ne le vois pas s'en sortir. Et si il passe 3e au championnat, là, franchement, Gilles, ça va être dramatique. Parce qu'il va complètement perdre toute notion de même son pilotage, ses repères, bah, sa confiance,
en
etc.
En fait, la question,
c'est fini.
La question, Stéphane, là maintenant, on comprend à peu près l'équation. S'il est troisième du championnat, il ne roulera pas pour Red Bull. Est-ce qu'il serait rétrogradé chez AlphaTauri ou bien est-ce qu'il disparaîtrait des radars de la Formule 1 on va voir ça. Déjà, on va voir s'il arrive à sauver cette deuxième place du championnat, mais. Clairement, Sergio Pérez en grande difficulté. Ça va être très, très intéressant de voir comment ça va se passer là sur ces 5 derniers Grands Prix. Voilà ce qu'on pourrait dire de ce Grand Prix du Qatar qui nous a quand même bien animé ce week-end. Là, on va pouvoir faire un petit peu relâche le week-end prochain. Il n'y a pas de Grand Prix avant, effectivement, d'entamer une séquence qui va être copieuse. Hein, Austin, ensuite Mexico et puis Interlagos, on va avoir des jolis circuits là.
Oui, alors Austin et Interlagos spécialement, c'est vrai qu'on attend ça avec impatience. C'est des circuits qui sont très très bien cotés. Austin, ils se sont fait une belle réputation hein, en 10 ans. C'est un beau circuit qui a été bien pensé et dont devraient s'inspirer certainement les autorités de la Formule 1 plutôt que de nous mettre des circuits un peu au milieu de nulle part. Sans grand intérêt et où il n'y a pas beaucoup de culture du sport auto. Alors c'est peut-être en devenir, mais pour l'instant, ça prend la place d'autres épreuves. Hein, j'ai noté qu'il n'y avait pas de Grand Prix de France au calendrier en 2024, mais ça, on aura peut-être l'occasion d'en reparler.
Exactement. Ce podcast, qui est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, de Deezer à Spotify, en passant par Acast ou par Apple Podcast, n'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et à vous abonner. Et de cette manière, vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. Stéphane, on a tout dit. On se retrouve la semaine prochaine. Non ? T'es pas d'accord ?
Ah bah si, bien sûr, avec plaisir. D'autant plus qu'on aura un invité extrêmement intéressant. Mais ça, pour l'instant, on vous laisse découvrir ça mardi prochain. Mais d'ici là...
Eh ben, écoute,
on coupe le contact.
On coupe le contact.